sème le vivant, récolte l'urticaire.
Qui sème le vivant, récolte l'urticaire.
Bienvenue sur les ondes de Radio Escapade, c'est Fiona. Et je vous présente cette émission qui veut parler d'écologie en collant bord à bord des bouts d'histoire. D'histoire de végétaux, de champignons, d'insectes, de vertébrés et de toutes les petites bêtes du monde microscopique. Ce sont des récits d'histoire et des récits de trajectoire de nos compagnons humains et non humains, vivants, proliférants, menacés. Ils s'entremêlent entre eux et à nos mondes humains et ils les chamboulent. Ils s'entrepercutent entre eux et c'est pour notre plus grand bonheur ou notre plus grand malheur. Je m'inspire librement des méthodes de l'ethnobiologie et de l'histoire environnementale et je vais vous emmener explorer les marges de notre monde civilisé, ses coulisses et ses artères vitales. Il s'agit pour vous, auditeurs, de vous laisser glisser le long du fil de mes pérégrinations qui tentent de suivre des signes, des pistes, des traces. Enfin bref, des histoires de trucs vivants qui nous racontent des choses sur nos vies à nous, nous qui sommes vivants, sur une planète vivante remplie de vie.
Qui sème le vivant ?
Récolte l'urticaire !
Aïe, aïe, aïe !
Pour cette deuxième émission, je me suis intéressée à un monde étrange, le monde du microscopique. L'espace qui nous entoure comme un espace multiscalaire. On peut l'appréhender selon de nombreuses échelles. Il est stratifié, comme un millefeuille d'échelles, qui définissent chacune un monde avec leurs paysages, leurs règles, leurs ambiances. Le monde du microscopique, où vivent les levures et les bactéries, est, dans mon imaginaire, un univers gluant, visqueux, humide, peut-être grouillant. C'est un monde, en tout cas, où je suis dépaysagée. Et je m'explique mieux auprès de vous, de tous les univers de science-fiction que j'ai pu découvrir ou lire, voir au cinéma ou dans les livres. Eh bien, aucune forme de vie qui y était imaginée, aucune forme de vie extraterrestre, n'avait des couleurs, quelles que soient ses couleurs vives, quelle que soit sa forme humanoïde ou animaloïde. Aucun de ces univers ne m'a donné à avoir et ne m'ont jamais étonné autant que cet univers-ci, celui du microscopique, où des choses y vivent avec une seule cellule, sans yeux, sans parole. Est-ce qu'il y a des odeurs, des sons dans ce monde microscopique ? Si nous n'avons de monde que ce que nous percevons à travers le filtre de nos perceptions sensorielles, quel peut bien être le monde d'une bactérie ou d'une levure ? Elles ont des flagelles, des pilies, et en se tordant sur elles-mêmes, ces microformes de vie, elles se déplacent, se frayent, s'entre-dévorent, se roulent dessus, et bref, elles investissent l'espace. Elles ont donc au moins un monde d'action, où elles agissent. Ce monde du microscopique, étrange, ce monde tout petit, il est sur la table devant moi, sur vos ongles, à vous qui êtes là à m'écouter, dans l'habitacle d'une voiture, dans un intérieur feutré ou au grand air. Il est autour de vous, sur vous, dans vous. Il est omniprésent et en même temps sacrément peu perceptible, de prime abord. C'est sûrement le moment de dresser une sorte de carte d'identité du monde microscopique. Ce serait le monde qui s'oppose au macroscopique, le nôtre. Celui que l'on peut percevoir sans l'aide du microscope. Ce monde est percé à jour par la science moderne de Pasteur au XIXe siècle, au détour de ces irruptions les moins discrètes dans le monde macroscopique, à savoir les maladies, les infections ou encore les pourritures de nos récoltes, les indigestions alimentaires. Quand l'Occident prend conscience de ses tout petits voisins, il prend peur. Les humains macroscopiques déclarent alors la guerre aux entités microscopiques, celles tout juste identifié comme responsable d'une bonne partie des fléaux de l'humanité. Cette guerre, c'est l'hygiénisme. C'est « on va se laver les mains avant d'aller à table ». C'est un projet pharaonique qui vise à ériger une frontière imperméable entre le macroscopique et le microscopique, entre nous et eux, entre l'intérieur et l'extérieur, entre ces mondes pourtant imbriqués. Et puis, ce monde du microscopique, il existe depuis que la vie existe, depuis bien avant que les humains en prennent conscience et encore bien avant que les humains n'existent tout court. Et après cette longue introduction, je propose de nous laisser nous imprégner par l'étrangeté de ce monde micro au son du trombone de César. Voilà, je vous propose d'écouter. C'était une captation intitulée « Trombone Tribal Lounge Music Says Prod in Berlin, Germany ». Et c'était réalisé par le propriétaire du SoundCloud César B Music, Vous êtes toujours sur Radio Escapade et on parle de microscopique. J'ai personnellement une passion, peut-être étrange, pour les épidémies et le pathologique. Le premier épisode de cette émission, sur la mérule, en était un premier petit aperçu. Et j'ai donc moi-même tendance à m'intéresser aux entités microscopiques quand leur voyage au sein des formes macroscopiques que nous sommes provoque de gros, gros dégâts. Mais justement, c'était un défi personnel. Pour commencer, cette fois-ci, je voulais que l'on s'intéresse à un autre aspect du monde micro. Je veux aller à la rencontre des bactéries et des levures avec lesquelles on collabore tous les jours. Et celles sans qui on ne pourrait pas vivre. Ou alors sans lesquelles on peut vivre, mais avec beaucoup moins de fun. Qu'est-ce que The French Way of Life sans les micro-organismes ? Qu'est-ce que le pain sans son levain ? Le fromage au lait cru sans ses ferments ? Et le vin sans le travail de la fermentation ? On le trouve tout de suite beaucoup plus sexy, ce monde du micro. Et puis surtout, on comprend que les humains du monde macro et les trucs vivants du monde micro n'avaient pas attendu Pasteur pour entrer en relation, ils n'avaient pas attendu les présentations. La domestication du monde microscopique, c'est une très vieille histoire et ça commence il y a très longtemps. Pour entamer le voyage dans ce monde du micro, je me suis adressée à des passeurs en quelque sorte, à ceux qui les côtoient et les apprivoisent tous les jours, ces habitants du monde microscopique. Je suis allée voir ma boulangère, Laurie, à Paillès, pour qu'elle me parle de son levain, sa population domestiquée à elle de micro-organismes. Cette symbiose de levures et de bactéries lactiques. J'en ai aussi discuté avec Félix, un autre boulanger, et j'ai pas pu m'empêcher de faire un clin d'œil au confinement. C'est un petit collage audio de ma fabrication et je vous laisse écouter.
Et c'est un effet inattendu du confinement, la mode du pain fabriqué à domicile.
Et conséquence de cette mode, la demande de levure explose, comme a pu le constater Arthur Mbaché à Strasbourg, où se trouve la seule usine de levure fraîche en France.
Confinement oblige, on va apprendre à faire notre propre pain.
Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du pain au levain.
Et je vous assure que même après le confinement, je pense qu'il va falloir que je me lève à l'aube pour continuer à le faire.
Vous étiez très nombreux à me demander des détails sur comment faire son levain.
Le levain, c'est quoi en fait? C'est de la farine et de l'eau, tout simplement, qui ferment.
Dropped in my flat, Paris could feel it. I'm trapped in my flat and I felt wasted. Oh, Corona bullshit. Have you got your attestation? Have you got your attestation?
Whoa. Ça c'est le petit bocal à...
Le petit bocal à levain.
Là c'est une toute petite quantité du coup.
Ouais, et je mets... Tu vois j'en ai un peu plus mais... Je mets le nouveau, celui d'hier, tu vois. Puis je le mets au frigo et après il dort. Parce que quand tu le mets au frigo, en fait le levain, en dessous de 15 degrés, il fait dodo quoi.
Et donc là c'est un peu comme si tu lui chantais une berceuse quoi. Non, il va se coucher.
Ouais, exactement. Jusqu'à la semaine prochaine.
C'est ça. Écoute là. Voilà, elles sont contentes, les bactéries, les levures. À manger, merci.
Parce qu'en fait, c'est quand même hyper sensible à la température, au niveau. Donc tu dois tout le temps gérer les montées, les descendre, tu vois. Et au final, ça paraît pas grand chose, mais ça joue vachement. Comme la rapprocher du four. Ou... Tu vois, c'est du vivant quoi.
Tu prends un peu plus ton temps quoi, tu te mets au rythme aussi du levain qui tu vois, voilà. Ouais. Il y en a qui contraignent plus, encore plus quoi. À essayer de le maintenir au chaud, à essayer de maintenir à 24 degrés. Ouais. Et après, quand tu as le four dans le fournil, c'est aussi beaucoup plus simple. Donc j'aime bien m'amuser et dire que c'est lui le chef, c'est lui qui fait le boulot parce que c'est quand même. Il bosse beaucoup en faisant les fermentations des pâtes, tout ça. Je le suis, enfin, c'est lui qui me guide tout au long de la journée sur le timing, quoi, parce que je suis pas toujours à la minute près, j'essaie de voir. Parce qu'au début, là, même, j'ai un ami qui vient de commencer son levain il y a 2 semaines, Et il me dit, d'une fournée à l'autre, parfois il y a beaucoup de bulles, parfois il n'y a pas beaucoup de bulles. Et en fait, au début, il est très... comment dire? Il n'est pas régulier, quoi. Il peut avoir des hauts et des bas, des coups de mou parce qu'il va faire plus froid, qu'il n'aura pas l'habitude, qu'il n'y aura pas encore forcément toutes les bactéries, les levures qui...
Comme je te dis, après, ton levain, de toute façon, il... en fonction de l'environnement dans lequel tu le mets, de toi, hein, je pense que t'es vraiment t'es aussi tes bactéries, tu vois, tes trucs à toi, je pense qu'il interagit, tu vois, avec ça, et du coup, ça le modifie. Et donc, ce serait marrant de faire des analyses de levain des fournils du coin, tu vois, pour voir les différences de population dans le levain.
Après, celui où j'ai bossé dans le Minervois, au maquis, si t'as leur contact, tu devrais les appeler parce que leur levain, il a la réputation d'être le plus diversifié, pour dire, faire simple, du coin, quoi, un peu du terroir de prise. J'avais fait une analyse collective de levain un peu des boulangers. Et le leur, en fait, moi, je traduis ça par le fait que c'est un lieu collectif et que ça fait 30, 40 ans que c'est... Je sais pas, tous les 4-5 ans, c'est des gens différents qui viennent, qui tournent, il y a des stagiaires tout le temps. Enfin bref, c'est nourri de toutes les mains qui pétrissent le levain, en fait. Parce que un des autres potes là, qui bosse au BIB, Lucas Van Gastro, qui a bossé sur les micro-organismes, en microbio, tout ça, du levain, il disait que ce qu'ils ont quand même diagnostiqué comme étant le facteur le plus influent sur les populations des levains, donc des levures et des bactéries présentes dans le levain, c'est les mains du boulanger, en fait, c'est la flore qui est en contact direct.
Merci. Et t'as jamais observé, par exemple, des changements dans sa...
Eh ben, en fait, c'est marrant parce que du coup, j'avais mon petit voisin Rémi, je sais pas si tu vois qui c'est Rémi. Et donc, il habitait au-dessus de chez moi et lui, il voulait faire du pain. Donc, je lui avais donné du levain. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il mourait tout le temps. Et donc il avait mis des caméras. Ah mais tu devrais aller le voir parce qu'il a des, je pense qu'il a des vidéos à te montrer du levain, tu vois. Ah oui, et le levain de Rémi, quand au début il avait des ratés, il sentait pas bon, tu vois. Donc on s'était dit que peut-être il s'était fait, il s'était quand même fait polluer par autre chose. Enfin, il sentait vachement la fermentation un peu alcoolique, tu vois. Mais c'est au début, il devait le maltraiter un petit peu, tu vois. Genre lui mettre de l'eau trop chaude ou le mettre dans un endroit trop froid.
L'odeur là de.
Tu dirais quoi toi?
Sur les pieds?
Ouais, c'est vrai que ça sent pas très bon. Hein. Mais pas les pieds. Je sais pas, ça sent la levure quoi.
Le repas?
Ouais, peut-être un peu.
Je remercie Sam Guenin, à qui j'ai piqué ce rock du confinement, et Arthur pour les sons du levain. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de pouvoir les écouter. Pour peu qu'on sache entendre, sentir, voir, malaxer, le microcosme du levain n'est pas si invisible que ça, finalement. C'est mon expérience avec du coup, ces passeurs dans leur boulangerie qui m'a permis de m'en rendre compte. Le levain, il est même carrément concret. C'est un collègue de travail. C'est pas un outil, c'est un collègue. Il est expressif, capricieux, plutôt même frileux. Il a son caractère. C'est une population microbienne en constante évolution, nourrie abondamment par les humains pour faire lever le pain, puis ensuite tuée à 300 degrés dans le four, mais à chaque fois préserver un petit échantillon afin de pouvoir être régénérer, enfin en tout cas de garder une continuité de la vie du levain. Et dans toutes les boulangeries du monde qui utilisent le levain, il n'y aurait donc pas deux levains pareils. C'est presque comme un chien. Il faut s'en occuper. Et quand on part en vacances, Il faut trouver quelqu'un pour continuer à lui donner des croquettes, enfin de la farine. Parfois, il tombe malade, comme le levain de Rémi qui meurt et qui sent l'alcool, on ne sait pas pourquoi. Pour clôturer cette petite introduction boulangère, je voulais vous faire écouter ce chant traditionnel des boulangères de Castille. Il est interprété par le groupe Araoui. Et les percussions qu'elles font avec leurs mains sur la table, c'est censé rythmer le travail du façonnage du pain. Et donc, ce serait un petit peu comme une espèce de chorégraphie entre les humaines boulangères et leur levain, quoi. Bon, on écoute. Nous sommes toujours sur les ondes de Radio Escapade pour un voyage dans le monde microscopique. Nous serions aujourd'hui dans une époque post-pasteurienne, nous dit l'anthropologue Paxson. Lui s'intéresse aux États-Unis à la production du fromage au lait cru. Dans ce doux pays, il est plus facile d'importer une arme à feu qu'un dangereux reblochon et sa terrifiante population de micro-organismes. Pourtant, l'anthropologue nous assure que nous sommes entrés dans une ère où on ne fait plus la guerre aux micro-organismes. Au contraire, à mesure qu'on les découvre et qu'on les comprend, et qu'on comprend l'étendue de leur monde et de son imbrication avec le nôtre, ce monde du microcosme serait considéré de plus en plus par les scientifiques, bien plus comme notre grand espoir thérapeutique que comme notre grand ennemi. Les êtres du micro-monde, tels des étrangers, nous contaminaient à travers leurs épidémies. Elles traversaient les êtres vivants macro que nous sommes, et désormais, le micro-monde est aussi notre microbiote, notre flore intestinale, quoi. Il est parti de nous, et quand il perd des compagnons ou qu'il se déséquilibre, les êtres vivants macro que nous sommes, et qui hébergent ou qui sont constitués de ce microbiote, on serait déstabilisé. C'est comme ça qu'on comprend peu à peu une bonne partie des maladies auto-immunes. Les méchantes bactéries et les vilains virus n'ont pas disparu. Ils rôdent, plus que jamais, dans les couloirs de nos aéroports. Ils circulent gaiement dans ce monde globalisé. Mais voilà, maintenant, il y a des nuances. Il y a les ennemis et les alliés. Et il y a aussi ceux qui sont juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment, mais qui, dans le fond, ne sont pas de mauvais bougres. C'est pas de leur faute. Il y a ceux qui ne savent rien faire tout seuls, mais qui en équipe déplacent et débordent et dégueulent dans notre monde macro. Enfin, on ne parle plus uniquement de frontières entre le monde macro et le monde micro. On parle d'équilibre, c'est moins guerrier. On parle d'écosystème, c'est presque champêtre. Vivre devient tout d'un coup un sport collectif. Je suis passionnée par le vivant. J'ai envie de mieux le connaître et de rencontrer ce monde microscopique. Et j'ai envie de vous embarquer avec moi. Pour cela, il faut, à la manière d'Alice au Pays des Merveilles, changer d'échelle. Il faut réussir à trouver la recette pour se faufiler chez les tout-petits. On peut se négocier pour cela une fenêtre, une toute petite lucarne, que dis-je, un périscope, une toute petite passerelle pour explorer depuis le monde macro, le nôtre, le monde micro de ces toutes petites choses, pour regarder avec nos gros yeux composés de plein de cellules, des trucs vivants avec une seule cellule et même pas Dieu. Voilà, je suis allée faire un tour au Hackerspace de Montpellier pour y rencontrer les individus étranges qui pratiquent la bidouille biologique et qui bidouillent des passerelles entre deux mondes pour tenter d'établir le contact avec ces êtres non humains qui font que je peux avoir une vie humaine. Et ouais, parce que apparemment, 99% des gènes qui font que je suis moi, donc 99% de l'information génétique qui est sur moi et dans moi, appartient à des bactéries. Et les grosses cellules de mon corps qui portent l'ADN humain, elles ne font pas les fières face à ces chiffres-là. Même si, en vrai, les grosses cellules avec l'ADN humain, elles pèsent plus lourd que les autres. En poids sec, j'ai plus de cellules avec de l'ADN humain que de l'ADN de bactéries et de levures. Mais j'ai quand même besoin des bactéries et des levures. Parce qu'elles, elles digèrent pour moi, elles synthétisent des vitamines que je ne peux pas manger, elles participent à mes défenses immunitaires. Et en conclusion, elles font partie de moi, elles sont moi. Au début du mois d'octobre, c'était le festival Tenaille, un festival féministe d'échange des savoir-faire techniques. Et l'atelier d'autogynécologie du mercredi matin me paraissait un excellent point de départ pour commencer à établir le contact avec mon microbiote de personne à vulve. Ce micro-monde qui travaille avec mes cellules humaines pour faire en sorte que je sois vivante et donc humaine. Voici quelques témoignages de ces biohackeuses entrecoupés d'une carte postale sonore de l'atelier du mercredi 8 octobre.
Moi, je fais partie du collectif Fontaine. C'est un collectif d'autogynécologie, d'autosanté et d'exploration biohackeuse qui est né au BIB, donc dans l'Hackerspace de Montpellier. C'est un groupe en mixité choisie de genre, en mixité MINT, donc meuf, intersexe, non-binaire, trans, qui a décidé que c'était pas juste question de se réapproprier la biologie et les savoir-faire techniques associés, d'aller faire des manips au labo, mais aussi commencer par un partage de parole, par creuser des questions, que ça soit dans des bouquins ou à travers les échanges, à travers d'autres types d'expériences. Et pour ce qui est de la microbio, on a d'abord commencé par faire des ateliers d'auto-exploration avec spéculum et miroir et lampe torche. Et ensuite, on a essayé de faire des auto-prélèvements et de visualiser un peu, de voir au microscope qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vit en nous, avec nous. Et c'est dur.
Apparemment, on peut rentrer. Allez.
Ouais, on découvre une bactérie dans un endroit.
On va vous prêter des blouses. C'est pas tant pour vous protéger du matériel biologique, c'est plus pour la coloration parce que ça tache beaucoup.
On allait faire le prélèvement tout à l'heure, individuellement. Prélèvement de dans mon vagin, en fait. Et là, je vais déposer le prélèvement sur la lame de verre. Attends, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Attends, oui, c'est bien ça.
Du coup, là, je mets une goutte d'eau.
avec une pipette élaborée, quoi. Attends. Ah voilà. Et normalement, je vais faire une toute petite goutte. Mais non, mais je sais. Je prélève avec voilà une goutte, un bouton spécial pour prélever, et je vais déposer une goutte sur la lame pour observer au microscope après. Et du coup, on va voir ce qu'il y a dans mon vagin, comment les bactéries sont, comment les cellules épithéliales sont. Voilà.
Parce que là, on voit des trucs qui viennent de la lame, du microscope.
Donc, les bactéries grammes moins, qui ont la paroi la plus poreuse, seront roses. Les grammes plus, qui retiennent plus, parce qu'elles ont une paroi plus mastoc. On a eu des problèmes avec les liquides de coloration précédents, donc on va voir si celui-là fonctionne. Pour ça, j'ai des témoins. Un témoin de caca de chien, où on devrait voir à la fois des violets et des roses. Ça nous renseigne.
Voilà, le caca test.
Ah, hein, tu vois quelque chose? Oui, alors, c'est pas hyper facile, mais un peu. J'essaye de chercher des lactobacilles qui sont censés être des petits bâtonnets. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de petits bâtonnets. Mais on est en exploration, on va dire.
Là, on les voit vraiment petites parce que t'es sur le plus petit.
Ouais, tu m'entends?
Ouais, je t'entends bien.
Ok. Je pense que je vais dire pas mal de conneries, quoi, si je commence à parler en détail du microbiote. Enfin, les fluides vaginaux, en gros, on a fait une coloration de grammes la dernière fois. On a regardé un peu ce qu'on pouvait retrouver. Genre, on a vu des cellules épithéliales, on a retrouvé des tissus, donc plusieurs cellules épithéliales collées, on va dire. On a essayé de repérer des lactobacilles. Et voilà, en gros, c'était un peu ça le principe. Après, on n'a pas, on tâtonne à fond, quoi, tu vois, on sait pas trop ce qu'on voit vraiment. On tente des choses pour essayer de reconnaître, mais ça reste une toute première approche, quoi. À côté de ça, moi, je fais pousser des bactéries de la kombucha, en fait. Pour faire de la cellulose bactérienne.
Ouais, c'est quoi?
Et en fait, bah, c'est un truc qui s'apparente un peu à un matériau souple que je travaille après derrière, que je fais du crochet avec des choses comme ça. Je fais différents trucs. Voilà. Et après, l'histoire avec... la cellulose bactérienne, en gros, j'avais vu quelqu'un qui faisait ça il y a 3-4 ans, et il y a une pote qui a ramené la kombucha à la maison dans l'optique de la boire. J'ai trop envie de tester le truc que j'avais vu parce que j'avais trouvé ça trop inspirant. Enfin, l'idée que tu puisses réutiliser cette partie que tout le monde jette. Et en faire quelque chose, je trouvais ça intéressant. Et donc j'ai commencé à la faire sécher, et puis plus ça allait, plus ça devenait un truc qui a pris de l'espace dans ma vie, en fait. Et là, pour le coup, c'est un peu la cellulose qui m'a colonisée, tu vois, parce que il y en a eu partout dans mon appart. Mon appart s'est transformé en une espèce de piscine géante de kombucha avec des bacs partout, ça sentait le vinaigre à fond. Les murs ont commencé à se décoller, le plâtre et tout, parce que c'était trop humide, enfin bref. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre un peu ce qu'elle aimait. Au niveau oxygène, au niveau température. Donc oui, c'est pour t'expliquer un peu à ce à quoi ça ressemble quand c'est à l'état liquide. C'est vraiment gorgé, ça ressemble à une espèce de muqueuse. C'est gorgé d'eau et c'est visqueux et c'est plus ou moins épais. Et là, en fait, je me suis retrouvée avec des espèces de monstres, quoi. C'était vraiment... Ça avait pris une proportion énorme. Je le prenais vraiment à bras le corps et ça me glissait des bras... Ça, j'en foutais partout, par terre. Enfin, tu vois, il y avait eu un moment où c'était vraiment genre un espèce de corps à corps, quoi. Ça sent fort, quand même. Et ça a un aspect qui s'apparente un peu à l'humain, mais l'humain de l'intérieur, quoi, tu vois.
Et ah ouais.
Quand tu les nourris, ça sert à rien de mettre trop de glucose. Parce que, tu vois, tu pourrais te dire, Parce qu'en fait, pour faire la cellulose, les bactéries, elles utilisent le glucose. Parce que si tu donnes trop de glucose, en fait, ça dérègle tout. Donc, tu dois respecter le rythme de l'écosystème. Et voilà, apprendre un peu à l'observer, à... Je sais pas.
Voici une petite présentation et un échantillon des habitants du BIB, le Hackerspace de Montpellier. N'hésitez pas à aller à leur rencontre. J'y ai toujours eu un accueil chaleureux. Ils sauront vous guider à travers les voies mystérieuses du microscope et de bien d'autres machines. Découvrez cet univers. Si la vie, pour revenir aux questions qui nous intéressent ici à propos du microscopique, donc si la vie, ma vie, ce n'est plus une histoire d'un individu contre tous les autres, ni même celle d'un individu au milieu d'autres individus, mais plutôt une forme d'organisation du flux vivant qui se polarise à un endroit précis, dans une énorme toile que serait le vivant, alors l'hygiénisme de Pasteur, le savon de Marseille, les antibiotiques systématiques, la chloration de l'eau potable, les césariennes généralisées, eh bien, ce seraient toutes des pratiques qui font de nous des hommes sûrement civilisés et modernes, mais qui nous éloignent tristement et terriblement de nos compagnons de route microbiens. Manger de la terre, lécher les poignets dans les transports en commun, s'embrasser et faire du sexe, vivre avec d'autres espèces, chat, chien, poule, hamster ou cheval, se baigner dans les rivières et courir nu dans les champs à la pleine lune. Ça, ce sont de riches expériences où l'on peut enrichir son microbiote. Enfin, à nos risques et périls, sortez couverts quand vous ne pouvez mesurer vos risques d'exposition aux maladies et aux infections sexuellement transmissibles. Il y a toujours en circulation des petits virus. Du coup, parce qu'en parallèle de la perte sans précédent de biodiversité macroscopique qui fait grand bruit, sniff, les ours polaires et les pandas. Et bien moi, j'avais très peu entendu parler de la perte de la biodiversité du monde microscopique. Et pourtant, cette extinction, elle est massive. Et puis, elle nous rend malades. Maintenant, tout de suite. Sur ces terrains d'enquête, le chercheur Alexis Zimmer suit des scientifiques qui s'intéressent à nos microbiotes et aux espoirs que place la médecine dans la greffe de microbiotes. Concrètement, il s'agit d'inséminer des excréments d'une personne possédant un microbiote fort et diversifié dans l'intestin d'une personne au microbiote déficitaire, afin de le guérir de sa maladie. Dans son article « Collecter, conserver, cultiver des microbiotes intestinaux, une biologie du sauvage », il nous raconte, et moi je vais vous lire son récit. Dans les laboratoires de ces chercheurs, ces microbiotes, les excréments, qui constituent le milieu du microbiote, deviennent des révélateurs de nos modes de vie, de nos histoires, de notre histoire à l'échelle de l'espace. À l'échelle de l'espèce. En même temps, ils portent avec eux la promesse et l'espoir de constituer un jour prochain une panacée susceptible de répondre à bon nombre de nos maux contemporains. Depuis 2013, les enquêtes enrôlent spécifiquement des populations de chasseurs-cueilleurs et elles se multiplient. Des chercheurs partent à la rencontre des communautés Hadza en Tanzanie, de Yanomami en Amazonie, d'Inuit dans le Grand Nord canadien, et tout ça pour récolter leurs selles et les soumettre à des analyses de laboratoire. Toutes les analyses attestent de la plus grande richesse et de la plus grande variété des microbiotes intestinaux des communautés de chasseurs-cueilleurs, par comparaison à ceux des populations occidentales et citadines. Toutes supposent que cette richesse et cette variété expliquent la moindre fréquence des maladies chroniques les affectant. Ces recherches, il faut ajouter à ces recherches une autre mission. Sauver ces microbiotes de leur disparition. La variété et la biodiversité des microbiotes sont en danger. L'occidentalisation et l'industrialisation généralisée des modes de vie a conduit à l'appauvrissement des microbiotes et à la disparition de certaines souches de bactéries qui les peuplent. Pour conjurer ce que certains n'hésitent pas à qualifier de crise ou de désastre, des chercheurs du grand MIT viennent de lancer le projet d'une banque mondiale, le Global Microbiome Conservancy, le conservatoire global du microbiote. Celui-ci a pour but de collecter et de préserver la biodiversité des microbiotes intestinaux humains pour les générations futures. Parce que ces histoires me mettent un peu en colère, je vous propose une interlude musicale avec Clara Luciani. Et c'est parti.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Vous êtes sur Radio Escapade et on s'approche de la fin de cette émission. Avant, juste avant cette chanson, on parlait de grève de caca. Voilà. Depuis Pasteur, on a fait du chemin pour tendre des ponts entre les deux mondes, le monde du microscopique et le monde du macroscopique. Il y avait le microscope, il y a eu la microbiologie et ses progrès dans les techniques du séquençage de l'ADN, l'information génétique, qui a eu lieu ces 30 dernières années. On n'a jamais aussi bien compris le rôle des micro-organismes et de notre microbiote. Et il serait déjà l'heure de se dire au revoir. L'objectif du projet comme celui du Global Microbiome Conservancy, dont parle l'article que je vous ai lu juste avant la chanson, son projet, c'est en substance d'extraire le pouvoir thérapeutique d'efficace sans remettre en question le monde qui organise la disparition de nos microbiotes et de leurs forces vitales. C'est une stratégie à la Noé, le Noé de la Bible, celui qui a construit un grand bateau et qui l'a appelé Arche, l'Arche de Noé, pour sauver le monde de la menace du déluge, tel que lui, Noé, connaissait le monde. Et bien pour le sauver, il collectionne les meilleurs représentants de chaque espèce qu'il connaissait pour repeupler à l'identique un monde post-déluge. Enfin, pour repeupler à l'identique selon sa représentation de ce qu'était le monde. Donc, c'est une stratégie, la collection comme stratégie de survie. Ces chercheurs du MIT et leurs collègues, quand ils sont confrontés aux effets néfastes du mode de vie occidental sur la potentialité de la vie même, eux, ils sortent avec leurs épuisettes récoltées du fécasse sauvage. Ils réunissent la plus belle collection. Promis, juré, craché, plus la collection sera belle et diversifiée et plus les fameuses générations futures seront sauvées. Voilà, c'était une tentative de prise de contact du monde macroscopique vers le monde microscopique, une tentative d'explorer nos enchevêtrements et nos vies interspécifiques. Merci de m'avoir suivi dans tous ces lieux étranges, chez les boulangères, dans les hackerspace, dans l'exploration du microbiote vaginal ou de nos fécesses. Il ne me reste plus qu'à souhaiter bon vent, Noé. Et l'émission sera rediffusée le vendredi 27 octobre à 15h sur les ondes de Radio Escapade. À bientôt et bonne journée.
Qui sème le vivant récolte l'urticaire.